6h30 ici à Paris, une heure de moins à Kinshasa. Le retour de l'info sur RFI, c'est avec vous Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, un pas supplémentaire dans les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila.
L'ancien président de République démocratique du Congo, soupçonné d'être lié à l'AFC M23, ce groupe armé qui contrôle notamment les villes de Goma et de Bukavu dans l'Est congolais. Hier, la justice militaire a demandé au Sénat de lever son immunité parlementaire. Joseph Kabila est sénateur à vie en tant qu'ancien chef de l'État. Nous vous expliquerons aussi à propos de la RDC dans quelles conditions des policiers et des militaires congolais ont commencé à être transférés de Goma à Kinshasa. Et vous entendrez le président burundais Evariste Ndayishimiye surveiller ce qui se passe à ses frontières, lui qui craint toujours d'être attaqué par le Rwanda. Dans ce journal également, reportage à Khartoum, capitale d'un Soudan toujours en guerre, mais ville où les combats se sont tus et où les habitants désormais luttent pour trouver de la nourriture. Le 1er mai, aujourd'hui, fête du travail, journée internationale des travailleurs, journée de commémoration des luttes passées, mais aussi de mobilisation pour les combats actuels, rappelle le président de la centrale syndicale du secteur public au Cameroun. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Antoine Grenier. On continue ce matin de vous présenter les finalistes du prix Marc-Vivien Fauré avec tout à l'heure l'Algérien de l'OM, Amine Gouiri. Il est donc poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel en République démocratique du Congo. C'est l'ancien président Joseph Kabila, soupçonné de lien avec les rebelles de l'AFC M23. Ce groupe armé soutenu par le Rwanda qui contrôle aujourd'hui de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu. Joseph Kabila qui bénéficie aujourd'hui d'une immunité judiciaire en tant que sénateur à vie. Hier, la justice militaire congolaise a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de cette immunité. Et le ministre de la Justice assure avoir réuni de nombreuses preuves contre l'ex-chef de l'État à Kinshasa, Pascal Moulégua.
La justice militaire se réfère au statut des sénateurs à vie de Joseph Kabila pour enclencher la procédure. Les faits reprochés sont postérieurs à son mandat présidentiel. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, d'affirmer que les éléments sont réunis.
La justice a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables. Qui était l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie, Joseph Kabila, dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires, en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons l'ancien chef d'État à venir affronter la justice congolaise.
Le Sénat, dominé par la majorité présidentielle, doit maintenant se prononcer. L'autorisation des poursuites permettrait aussi à la justice d'agir sur les patrimoines de l'ancien président.
La justice a répertorié tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La justice attend l'autorisation expresse de poursuite pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois.
Les partis de Joseph Kabila suspendus par le gouvernement contestent ces accusations. Ils parlent depuis plusieurs semaines d'affabulation. Reste à savoir si le Sénat donnera son feu vert dans un contexte marqué par la médiation internationale autour du M23 et des appels à l'apaisement politique. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Contexte de négociation entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis et du Qatar. Kinshasa et Kigali se sont donnés jusqu'à demain pour parvenir à un avant-projet d'accord de paix. Des discussions qui se déroulent donc en ce moment au Qatar. Elles ont porté hier, d'après le ministre qatarien des Affaires étrangères, sur la situation humanitaire. Alors que ces derniers jours ont été marqués également à Goma par des mouvements de troupes démobilisées. Les soldats de la SAMI RDC, la force déployés par la communauté d'Afrique australe qui ont débuté leur retrait. On vous en a parlé hier. Dans le même temps, des militaires et des policiers congolais, eux aussi réfugiés depuis la fin janvier dans une base des Nations Unies, ils ont commencé à être transférés vers Kinshasa, opération sensible et encadrée par le comité international de la Croix-Rouge. Elle se déroule dans un climat de méfiance entre les parties, nous explique Passion Ligodi.
Une première centaine d'entre eux a quitté Goma ce mercredi. Le transport s'est fait par étapes. Les militaires, les policiers et quelques membres de leur famille quittent d'abord Goma par la route, sont ensuite héliportés jusqu'à l'aéroport de Mavivi près des Bénin Kigali avant de prendre un vol du CICR vers Kinshasa. Une opération encadrée de bout en bout par le Comité international de la Croix-Rouge. Ces hommes désarmés, conformément aux règles onusiennes, étaient protégés par la MONUSCO depuis fin janvier, après la chute de Goma face à la FCM-23 soutenue par Kigali. Pendant ces 3 mois, la mission onusienne a assuré leur sécurité malgré un climat tendu. On se souvient que la FCM-23 avait accusé la MONUSCO de faciliter des fuites vers de groupes armés Wazalendo, des accusations fermement démenties par l'ONU. La FCM-23 a également été pointée du doigt pour avoir traqué des militaires jusque dans des hôpitaux. Le CICR joue un rôle déterminant dans cette évacuation en tant qu'intermédiaire neutre à la demande des FRDC. Tous les transferts se font sur base du consentement individuel sous la protection des conventions de Genève. Les FRDC saluent cette opération et remercient publiquement la MONUSCO et les CICR pour leur engagement dans des conditions qualifiées de particulièrement difficiles.
Patient Ligodi, lui aussi, garde un œil sur ce qui se passe dans l'Est congolais. C'est le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, invité de nos confrères de France 24 hier. Et l'Est congolais l'intéresse notamment parce qu'il y déploie des troupes alliées de l'armée congolaise et qui ont pour mission de traquer des rebelles burundais. Et d'autre part également parce qu'il craint toujours que le Rwanda n'attaque son territoire.
Nous avons d'abord des informations, nous connaissons son plan et aussi on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais, alors que réellement, ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là, et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours, on a des inquiétudes, mais nous espérons que, aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement directement au Burundi.
Le président burundais, Évariste Ndayishimiye, interrogé par Marc Perelman. Et la situation de l'Est congolais, on en reparle dans une dizaine de minutes. Comment se porte l'économie du Nord et du Sud Kivu? Reportage d'Alexis Bédu tout à l'heure pour Afrique Économie.
RFI.
Le secrétaire général des Nations Unies se dit horrifié par une situation qualifiée comme étant de plus en plus catastrophique autour de la ville d'El Fasher. Nous sommes donc au Soudan. El Fasher, c'est la seule grande ville de la région du Darfour qui échappe aujourd'hui au contrôle des paramilitaires FSR. Des organisations sur place disent y avoir compté 165 morts civils ces 10 derniers jours dans les assauts attribués à ces paramilitaires FSR. La situation en revanche est désormais plus calme à Khartoum, la capitale soudanaise, où des déplacés commencent à rentrer. Mais ces habitants de la ville ont bien du mal à trouver de quoi se nourrir. Reportage de notre envoyé spécial, Gaël Lalex.
Devant la mosquée du quartier de Bouri, Haïtiam Mohamed Alawad distribue de grandes gamelles de haricots rouges. Il gère cette soupe populaire depuis le début de la guerre.
On a cuisiné beaucoup de légumes, dont des haricots et de la salade. On fournit le petit déjeuner, le déjeuner et du riz pour le dîner. Environ 190 personnes viennent chaque jour. On note les repas sur une carte.
Bouri est dévasté par les combats et les pillages. Pour ses habitants, comme Habib Mohamed Ali Mustafa, la soupe populaire représente le seul moyen de survivre.
On n'a ni argent ni nourriture chez moi. Je n'ai jamais quitté Khartoum. Durant toute la guerre, je suis venu chercher ma nourriture ici.
Est-ce que vous auriez pu survivre sans la soupe populaire ?
Non. Tous les habitants du quartier, on venait se nourrir ici, 2 repas chaque jour.
Ce sont les Soudanais de la diaspora qui financent les soupes populaires de la capitale. Mahmoud Salah, ingénieur, vient chaque jour. Il n'a pas les moyens de suivre l'inflation.
La nourriture coûte très cher car on est dans une période d'après-guerre. Un kilo de viande coûte 24 000 livres soudanaises.
Et avant la guerre ?
2 000 seulement. Aujourd'hui, 6 pains coûtent 1 000 livres soudanaises. Avant, on en achetait 24 pour le même prix. La différence est énorme.
D'après le Programme alimentaire mondial, le prix du panier moyen au Soudan a augmenté de 134% en un an. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Par ailleurs, on apprend que le président de la transition soudanaise, le général Al-Burhan, a nommé hier un nouveau premier ministre, Dafala Al-Ajali, diplomate de métier, ex-ambassadeur en Arabie Saoudite, et qui a également représenté son pays aux Nations Unies du temps du président Omar el-Béchir. Sachez aussi que les Émirats Arabes Unis disent avoir déjoué un transfert illégal d'armes à destination de l'armée soudanaise. Réponse de Khartoum, le Soudan est un État souverain doté d'une armée nationale et qui n'a aucun besoin de faire de la contrebande d'armes. Abu Dhabi, qui est par ailleurs accusé par les autorités soudanaises de fournir des armes aux paramilitaires FSR. Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, l'Union africaine qui lève ses sanctions contre le Gabon à 2 jours maintenant de l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que président de la République. Le Conseil paix et sécurité de l'UA estime que la transition issue du coup d'État mené en 2023 par ce même général Oligui est globalement réussi. Le mois dernier, Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté l'élection présidentielle avec un peu moins de 95% des suffrages des Gabonais. Au Kenya, le président de l'Assemblée nationale dit son choc profond et sa tristesse indicible. Un député kényan a été tué hier soir en pleine rue à Nairobi, la capitale. Charles Were, membre du mouvement démocratique orange de l'opposant Raila Odinga. D'après des témoins cités par la presse locale, notamment Citizen TV qui a révélé l'information, le véhicule de l'élu a été pris pour cible par 2 hommes à moto, 2 assaillants qui sont désormais recherchés. Et puis c'est aujourd'hui le 1er mai, fête internationale du travail, journée fériée dans de nombreux pays où l'on célèbre les acquis sociaux, résultats des luttes des travailleurs. Au Cameroun, Jean-Marc Bikoko, président de la centrale syndicale du secteur public, tient tout de même à rappeler que cette journée n'est pas uniquement un jour chômé et un jour de fête.
Nous tenons à rappeler aux uns et aux autres que ce jour est un jour commémoratif. C'est également une journée de revendication. Les organisations syndicales continuent d'interpeller le gouvernement en organisant des manifestations parallèles qui répondent aux normes internationales en la matière, en posant les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les vrais syndicalistes qui essayent donc d'interpeller le gouvernement et de dénoncer cette manœuvre d'instrumentalisation et de caporalisation des travailleurs, et c'est la raison pour laquelle nous dénonçons le syndicalisme d'accompagnement qui est devenu l'instrument par lequel le gouvernement et les employeurs essayent de détourner les travailleurs de leurs droits et intérêts que sont les syndicats pour de simples avantages qui ne garantissent pas leur épanouissement.
À Yaoundé, il est 5h42.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre, au reportage à Johannesburg en Afrique du Sud, où il a fallu 5 ans de travaux, mais la principale bibliothèque municipale de la ville a finalement rouvert fin mars. Reportage donc dans quelques minutes. On parlera aussi de la guerre dans l'Est congolais qui plombe les activités économiques dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et du Mali. La junte au pouvoir à Bamako confirme la dissolution des partis politiques et l'on se dirige vers un maintien au pouvoir sans élection du général Assimi Goïta. On en parlera avec notre invité, mais tout de suite, ce sont les sports. Les sports avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Fouet 2025, le trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1. Chaque jour, jusqu'au 5 mai, RFI vous présente les 12 nommés.
Et aujourd'hui, on parle de l'international algérien Amine Gouiri, en difficulté à Rennes en début de saison. Il brille désormais avec l'Olympique de Marseille, Victor Missistrano.
Illustration parfaite avec ce triplé retentissant dimanche dernier contre Brest. 3 buts d'Amine Gouiri, dont un retourné acrobatique qui restera dans les mémoires. Peu mémorable en revanche, selon notre consultant Nabil Djellit, la première partie de saison de l'attaquant des Fennecs en Bretagne, avant un transfert à l'OM cet hiver pour 22 millions d'euros.
Si on s'était arrêté à ce qu'il avait fait sur la première partie de saison avec Rennes, il serait probablement pas dans cette liste, puisque Rennes a été une équipe en énorme difficulté, lui a mis 2-3 buts, il a été un peu baladé sur le terrain.
Repositionné en numéro 9 par Roberto De Zerbi, l'attaquant marseillais totalise 8 buts et 4 passes décisives depuis janvier. L'ex-grand espoir, aujourd'hui âgé de 25 ans, a peut-être enfin trouvé un contexte idéal pour s'épanouir.
On sait qu'il y a une petite malédiction du côté de Marseille, notamment au poste de numéro 9, et pour l'instant on peut dire qu'il fait plus que le job. Tout est réuni pour pouvoir s'installer dans le collectif marseillais et réussir des choses et donner une autre impulsion à sa carrière, certainement.
Un exemple à suivre pour Amine Gouiri, le seul avant-centre qui a vraiment convaincu vécu ces dernières années à Marseille. C'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, saison couronnée par le prix Marc-Vivien Fauré.
Victor Missistrano, les trois finalistes du prix Marc-Vivien Fauré 2025 seront révélés le lundi 5 mai dans l'émission Radio Foot International. Le nom du lauréat, lui, sera connu le lundi 12 mai.
Le football encore avec un mot de la Ligue des Champions en Europe et une soirée folle du côté de Barcelone.
Demi-finale allée entre le Barça et l'Inter qui s'est achevée sur un 3 partout spectaculaire. Marcus Thuram a ouvert le score dès la 30e seconde de jeu. L'Inter a mené 2-0 avant de céder, notamment face à Lamine Yamal. Le match retour mardi prochain s'annonce très prometteur.
Et pour finir, Antoine, du tennis et la surprise du Masters 1000 de Madrid, Gabriel Diallo qui continue sa route.
Repêché comme lucky loser en début de tournoi, le natif de Montréal a éliminé en 8e de finale le bulgare Grigor Dimitrov en 3-7 en sauvant au passage 3 balles de match. La meilleure performance de Diallo dans un Masters 1000.
Rien pouvait m'arriver, je crois que c'était écrit dans le ciel que j'allais passer, même si moi j'y croyais pas trop sur les balles de match. Les marges étaient tellement petites des deux côtés parce qu'ils servaient super bien aussi. Le tie-break, franchement, ça aurait pu aller des deux côtés. J'essaie de bluffer moi-même que tout allait bien, même si peut-être que c'est, à l'intérieur ça bardait beaucoup, mais j'essaie de garder les choses simples. Je servais tellement bien que ça m'a vraiment relâché pour sur le reste de mon jeu. Un point à la fois, les intentions étaient claires, surtout dans des conditions comme ça. Ça va super vite, donc t'as pas trop de questions à te poser. Tu vois la balle, tu la tapes. J'essaie vraiment d'être imprévisible parce que c'est le genre de joueur où c'est des excellents retourneurs. Donc si on leur donne beaucoup de fois la même option, ils vont s'habituer et ils vont rendre notre travail de serveur inconfortable. Donc j'essaie d'être le plus imprévisible possible. Et aujourd'hui, l'exécution était 10 sur 10.
Gabriel Diallo avec Pierre Chaperon. En quart, il sera opposé à l'Australien Alex de Minaur ou à l'Italien Lorenzo Musetti.
Merci Antoine Grenier. C'était le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce jeudi 1er mai, c'est ce vaste accord économique signé entre les États-Unis et l'Ukraine hier à Washington. Selon Kiev, il doit permettre le financement de projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz sur le sol ukrainien. Le texte prévoit la mise en place d'un fonds pour investir dans la reconstruction de l'Ukraine, fonds financé et géré à parts égales par les Américains et les Ukrainiens. Un document qui doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien après sa signature. Kiev qui accuse par ailleurs Moscou d'augmenter l'intensité de ses attaques sur le front, à une semaine maintenant d'une trêve du 8 au 10 mai annoncée par le président russe Vladimir Poutine. Hier, deux personnes ont été tuées, 5 autres blessées dans une attaque de drones russes contre une zone résidentielle de la ville d'Odessa. Et puis nous sommes le 1er mai, journée internationale du travail en France. 250 cortèges sont prévus, les revendications de cette année, la préparation du budget 2026 et les 40 milliards d'euros d'économies que le gouvernement tente de trouver. Une Europe plus protectrice pour les travailleurs, les syndicats qui s'opposent également à un assouplissement du travail et des manifestations sont prévues un peu partout dans le monde. Quelques mois de fermeture se sont transformés en 5 ans de travaux en Afrique du Sud, à Johannesburg. La principale bibliothèque municipale est désormais rouverte. En 2020, le bâtiment avait fermé ses portes au moment de la pandémie de Covid, avant que l'on se rende compte qu'il n'était en fait plus aux normes de sécurité. Et si aujourd'hui cette bibliothèque a pu rouvrir, c'est notamment grâce à la mobilisation d'associations qui ont fait pression sur la ville. Reportage de Valentin Hugues.
Un groupe d'étudiants patiente devant la bibliothèque. Les grandes portes en bois vont bientôt ouvrir. Mpilo est aux premières loges, il porte l'uniforme de son lycée.
Être devant la bibliothèque, ça me fait vraiment chaud au cœur, car là d'où je viens, il n'y a pas de bibliothèque du tout. La plus proche, c'est celle-ci, littéralement. Et tout ce temps, quand elle était fermée, ça a vraiment été dévastateur, parce que Johannesburg est un centre social, tous les étudiants peuvent venir ici. C'est un endroit qui nourrira les rêves de beaucoup de jeunes.
5 ans de fermeture, c'est trop long selon les associations qui ont fait pression sur la ville pour accélérer la réouverture. Flobord est la fondatrice de Johannesburg Heritage. Sur son t-shirt bleu, il est écrit « Les bibliothèques offrent des services essentiels ».
Nous avons organisé cette grande manifestation l'année dernière et tout d'un coup, nous avons été invités aux réunions avec les parties prenantes. Nous avions accès aux informations et à chaque réunion, on demandait « Alors, c'est pour quand ?»
Younous Shemda, membre d'un collectif qui s'est aussi battu pour la réouverture, prend le temps de contempler le lieu.
Si vous regardez les grandes fenêtres ici, avec la lumière qui entre, vous ressentez cette tranquillité, cette sérénité. Il y a maintenant tellement d'opportunités, notamment pour les jeunes, parce que vous avez votre maison, votre lieu de travail, et ensuite, il y a un troisième endroit où l'on est en sécurité, où l'on est en paix, et c'est la bibliothèque. Une bibliothèque, d'ailleurs, que moi-même, je fréquentais quand j'étais jeune.
Alors que beaucoup d'immeubles voisins du centre-ville sont abandonnés ou contrôlés par les gangs, cette réouverture signe le retour du savoir et de l'éducation au cœur de Johannesburg. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Comment se porte l'économie de l'Est congolais, les provinces du Nord et du Sud, Kivu, occupées en grande partie par les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, et cela depuis maintenant plusieurs mois. Plusieurs mois marqués par des pillages, des spoliations d'entreprises, des banques à l'arrêt et des aéroports non fonctionnels. Autant dire que la guerre a paralysé les activités économiques de la région. Et aujourd'hui, les patrons des Kivu espèrent beaucoup des discussions en cours entre Kinshasa et Kigali. Les deux capitales de la RDC et du Rwanda qui se sont données jusqu'à demain pour arriver à un avant-projet d'accord de paix. Afrique Économie, Alexis Bédu.
Près de 90 entreprises qui l'accompagnent ont mis la clé sous la porte à Bukavu. Jean-Paul Lokoumou, consultant en entrepreneuriat, constate l'abattement et le sentiment d'abandon des patrons dans cette région coupée du monde.
Lorsque il n'y a plus de vol, lorsque le banque ne fonctionne plus, on ne peut pas parler de climat des affaires pour le moment.
Jean-Paul Lokoumou se fait le porte-voix des patrons des Kivu. Ils espèrent une paix rapide. En attendant, ils demandent de l'aide.
Je fais appel aux ONG, au secteur de financement de venir en rescousse. Mais même si les banques sont fermées, il y a la possibilité de travailler sur la résilience, de trouver une solution pour ces entrepreneurs. En tout cas, ils sont vraiment dans les besoins.
L'amélioration du climat des affaires, c'est un des credos de l'exécutif congolais ces derniers mois. Lors d'un forum à Casablanca la semaine dernière, le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a invité les entrepreneurs étrangers à investir en RDC. Mi-avril, Thierry Katembwe, conseiller du président de la République Félix Tshisekedi, était lui aussi à Paris pour convaincre les entreprises françaises d'investir dans le pays.
La démarche est assez claire, qu'on sait que le pays va finir par être pacifié. On sait que tout est une question d'économie, tout est une question d'opportunité. Aujourd'hui, on dit à tous ces investisseurs, venez directement en RDC. On est en train de mettre en place une plateforme énorme pour que les différentes multinationales s'y retrouvent. On est très heureux aujourd'hui d'avoir des grosses boîtes françaises, des plus grosses boîtes américaines qui sont déjà engagées et donc on en veut encore plus.
Le Nord qui vous intéresse toujours, le groupe hôtelier français Accor qui a un projet d'hôtel Ibis Style à Goma. Son vice-président en charge du développement en Afrique, Reda Fassé.
Notre partenaire qui est local, qui a une parfaite lecture des dynamiques de développement que va connaître cette ville dans les années à venir, croit fortement à son potentiel. Et il faut se projeter. Il est clair qu'à l'instant T, c'est un peu compliqué, mais on est optimiste. La ville va connaître un dénouement heureux et c'est ce qu'on lui souhaite. Et on espère justement pouvoir développer très prochainement un hôtel, voire plusieurs, à Goma, qui reste quand même une ville d'une taille assez importante.
La RDC cherche à diversifier son économie, mais c'est bien autour de ces précieux minerais critiques qu'un accord avec les États-Unis est en train d'être concocté.
À Goma, il est 6h53. 4h53 à Bamako, où l'on sait désormais que le régime militaire au pouvoir au Mali souhaite se maintenir au pouvoir sans élection. C'est ce qu'ont recommandé les consultations des forces vives qui se sont achevées avant-hier. Autre recommandation, celle de dissoudre les partis politiques maliens. Comment ces partis politiques vont-ils réagir en ce 1er mai? On en parle avec notre invité, le sociologue Mohamed Amara, auteur de l'essai « Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être ». Christophe Boisbouvier lui a demandé d'abord si les projets du régime militaire marquaient pour lui un tournant dans l'histoire du Mali.
Bien sûr que c'est un tournant, c'est une nouvelle épreuve pour le Mali de voir que après 30 ans de démocratie, que une autorité de transition décide de dissoudre les partis politiques d'une part et d'autre part, de proposer de nommer le président de transition en tant que président de la République. C'est une première dans l'histoire du Mali contemporain.
Et vous pensez que beaucoup de Maliens vont faire le parallèle entre aujourd'hui et l'époque du régime militaire du général Moussa Traoré?
Je pense pense que le parallèle est quasiment fait du fait de tous les mouvements de résistance qui commencent à se mettre en branle, qui dénoncent ces recommandations, et depuis l'ensemble des partis politiques. J'espère qu'ils vont se mobiliser parce que s'ils ne se mobilisent pas d'une façon ou d'une autre, ils participent à leur propre enterrement, ce qui n'est pas bon. Et pour la démocratie malienne, et pour l'héritage de ce qui a été légué par les Modibo Keïta, par les Alpha Omar Konaré, et j'en passe. Donc, j'espère qu'ils vont se mobiliser pour dénoncer cette confiscation du pouvoir. Et donc, c'est tout l'enjeu des mobilisations à venir, s'il y en a, ou des stratégies de rejet de cette dissolution des partis politiques qui sont inscrits dans la Constitution, même la dernière Constitution qui a été votée en 2023, où on a dit que le multipartisme, comme les mandats du président, ne sont pas modifiables, ne sont pas révisables.
Le sociologue malien Mohamed Amara, entretien complet dans trois quarts d'heure et sur RFI.fr. Et avant le prochain journal, dans un peu plus de 4 minutes, vous en avez l'habitude. Maintenant, direction le Gondwana. Maman, vous nous dites que dans le calendrier, le 1er mai, c'est toujours la fête du travail.
Oui, aujourd'hui c'est la fête du travail, mais comme lors de toutes les fêtes du travail, personne n'ira travailler, à part les malchanceux comme nous, obligés de causer dans le poste radio. C'est la fête du travail, mais tout le monde est joyeusement resté à la maison, grasse matinée, sport, visite de la famille, ou alors ça traîne à la maison, histoire de bien narguer ce jeudi 1er mai, jour de milieu de semaine qu'on passe habituellement au travail. C'est la fête du travail aujourd'hui, et certains défilent dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, avec des banderoles qui souhaitent bonne fête du travail à tous les travailleurs et patati et patata. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Tu dois célébrer le travail, mon ami, même si tu es au chômage. Pourquoi ? Ben, au moins par superstition, mon ami. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es au chômage que ça implique forcément que l'année prochaine, lors de la prochaine fête du travail, tu seras encore au chômage. On sait tous que le travail est quelqu'un de très susceptible. Il peut très mal prendre le fait que tu ne lui souhaites pas bonne fête aujourd'hui. Et donc, il va te bouder, te faire la gueule, comme ta femme quand tu oublies sa date d'anniversaire. C'est ça que tu veux ? Non ? Alors bouge-toi ! Même si tu es au chômage, fais comme tous ceux qui ont du travail. Célèbre la fête du travail, mon ami, c'est-à-dire fais la grasse matinée comme tout le monde, bois ton café dans la cour au vu et au su de tout le monde comme si c'était dimanche, traîne à la maison en survette, sors acheter du pain à 11h en sandales en gardant tes lunettes de soleil pour bien montrer que tu viens de te réveiller. Ah, c'est ce que tu fais d'habitude puisque tu es au chômage depuis longtemps, mais c'est pas grave, mon ami, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu as le droit de faire ça. Il faut te fondre dans la masse des travailleurs le jour de la fête du travail. Aujourd'hui, t'as pas le droit de faire semblant de sortir chercher du travail. Au contraire, si tu fais ça, ben tout le monde saura que t'es au chômage. On ne cherche pas du travail le jour de la fête du travail. Aujourd'hui, tu verras le ministre du Travail à la télé célébrer le travail comme si c'était sa fête à lui aussi, alors qu'il ne fait rien pour te procurer du travail. Il va parler, raconter que le travail c'est ceci, c'est cela, que c'est la priorité de son gouvernement. Mais toi, tu ne vois rien venir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va voir que tu fais semblant de chercher du travail. Je plaisantais, hein, faut pas t'énerver. Je sais que tu as cherché le travail partout avec la torche, mais t'as l'impression qu'il joue à cache-cache avec toi dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, le travail. Tu as l'impression qu'il te fuit, le travail. Tu sais quoi ? Il va peut-être montrer sa tête aujourd'hui, le travail, puisque c'est sa fête. Alors, dès qu'on le verra, on appellera le ministre du Travail et on les enfermera tous les deux dans un salon pour qu'ils se parlent enfin et trouvent une solution pour toi qui cherches du travail. Bonne fête du travail et à lundi.
À lundi, merci Maman. Et pas de répit pour RFI. RFI Matin, bonjour Andréane Mellard.
Bonjour Xavier Besson, bonjour à toutes et à tous. RFI Matin, ravi de vous retrouver. En ce jeudi 1er mai, comme le disait Maman, journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. On va en parler ce matin avec nos invités et avec nos correspondants. On parle aussi ce matin du Mali, de l'Ukraine, du Proche-Orient, du foot, avec cette folle soirée de Ligue des Champions hier soir. Antoine Grenier viendra nous en dire plus dans nos journaux des sports. C'est au programme jusqu'à 10h.
Ce jeudi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Comment financer les nouvelles dépenses budgétaires pour la défense ? Au Royaume-Uni, le gouvernement a tranché et il a coupé dans les fonds pour l'aide internationale et la lutte contre le changement climatique. Un choix difficilement réversible qui inquiète les activistes.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.